poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM, DAB+, et radioalliance-plus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcelle. Puisque nous venons de fêter la fête de Pentecôte, je vous propose d'écouter le message aux églises pour la Pentecôte par les présidentes et présidents du Conseil œcuménique des églises. Nous vous saluons dans un esprit d'amour chrétien et de communion fraternelle à l'occasion de la fête de Pentecôte. La Pentecôte marque la descente de l'Esprit-Saint sur l'Église et son habilitation pour l'activité missionnaire. L'Église est la communion koinonia du peuple rassemblé en Christ par la puissance de l'Esprit-Saint. Notre cheminement œcuménique durant la 7e Assemblée du Conseil œcuménique, qui s'est réunie à Canberra en Australie en 1991, qui avait pour thème « Viens, Esprit-Saint, renouvelle toute la création », était un appel aux églises membres, leur demandant de réaffirmer la force régénératrice et l'action transformatrice de l'Esprit-Saint dans l'Église et dans toute la création. Il s'agissait également d'un rappel de l'importance vitale de la Missio Dei, la mission de Dieu, de l'Église, portée par l'Esprit-Saint. Dans un monde où la vie est menacée dans ses dimensions humaines et écologiques, nous avons besoin de l'Esprit de vie pour protéger le caractère sacré, la plénitude et l'intégrité de la vie que Dieu nous donne. Dans un monde déchiré par l'intolérance et les clivages, nous avons besoin de l'intervention de l'Esprit-Saint pour abattre les murs de séparation, voir Épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 14, et nous aider à instaurer la cohésion et l'harmonie dans la diversité des races, des religions et des cultures. Dans un monde dominé par la corruption, l'injustice et le dépérissement des valeurs morales et spirituelles, nous avons besoin de la présence régénératrice de l'Esprit-Saint pour transformer nos sociétés grâce aux valeurs de l'Évangile. En tant que communauté fraternelle mondiale d'Église, prions comme nous l'avons fait durant l'Assemblée de Canberra. Viens, Esprit-Saint, et aide-nous à progresser vers l'unité qui est un don de Dieu. Aide-nous à avancer avec une vision renouvelée de notre cheminement spirituel. Donne-nous la force et les moyens de formuler de manière plus concrète notre engagement missionnaire dans toutes les régions du monde et plus particulièrement en cette période charnière au Moyen-Orient. Aide-nous à remplacer la haine par l'amour, la violence par le dialogue, l'égocentrisme par l'acceptation réciproque. Fais de nous des instruments de justice, des apôtres de paix, des messagers et des messagères de vie. Ce message est signé les présidentes et présidents du Conseil œcuménique des Églises et suivent les noms d'une dizaine de personnes, hommes et femmes, qui sont donc ces présidentes et présidents. Puisque l'actualité braque ses regards sur la situation dramatique en Nouvelle-Calédonie, je voudrais vous parler de l'influence de l'Église protestante de Kanaky-Nouvelle-Calédonie dans la société. Il s'agit d'un article de Louis Fraisse, paru le 15 décembre 2021 dans l'hebdomadaire Réforme. Cette Église produit de l'évangélisation de la Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle est un acteur incontournable de la vie sociale et politique. C'est un fait, le paysage religieux de la Nouvelle-Calédonie diffère assez largement de celui de la métropole. Non seulement le christianisme y est beaucoup plus visible dans la vie publique, mais les protestants y occupent en outre une place plus importante. L'Église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie, EPKNC, revendique quelque 30 000 membres pour une population de 271 000 habitants. Cette Église, qui a pris position en 1979 pour l'indépendance, pour particularité d'être composée en très grande majorité de Kanaks, à l'inverse de l'Église catholique, plus hétérogène. Cela s'explique par l'histoire de l'évangélisation du territoire. Les missionnaires protestants sont arrivés avant les catholiques dans cette partie du Pacifique. Ils se sont implantés dans les années 1840 dans l'archipel des Loyautés. C'est ce que rapporte le professeur d'histoire du christianisme Gilles Vidal. Si leur stratégie de christianisation a été efficace auprès des Kanaks, c'est notamment parce que l'évangélisation a surtout été menée par des Océaniens, alors que les missionnaires catholiques, frères maristes européens, sont arrivés avec la marine française. Tout au long du XXe siècle, l'Église protestante, elle gagne son autonomie en 1960, accompagne les soubresauts de la politique néo-calédonienne. Sa forte implantation au sein de la population kanak en fait un interlocuteur obligé pour les représentants de l'État et un acteur essentiel de la vie sociale. La conception de la laïcité en Océanie n'est pas du tout la même qu'en métropole. Les églises chrétiennes exercent une influence considérable, note Gilles Vidal. Le religieux, le politique et le coutumier s'imbriquent naturellement au quotidien. Un homme politique commencera ainsi un discours par une citation biblique et un pasteur citera, outre la Bible, des paroles de sagesse tirées de la coutume. On répète souvent en Nouvelle-Calédonie que l'homme marche sur deux pieds, l'Évangile et la coutume. Le chercheur souligne aussi le travail mené à la suite des accords de Matignon, signé en 1988, après une décennie de violence. Certes, beaucoup de problèmes, notamment d'inégalité sociale, restent irrésolus, mais la haine a diminué entre Européens et Kanaks, surtout chez les jeunes, et c'est dû en bonne part aux églises qui ont joué un rôle important dans la pacification des esprits. J'espère pouvoir vous donner des informations plus récentes et plus actuelles lors d'une prochaine émission. Église protestante unie de France. C'est l'un des fruits de 3 ans de travail sur la mission de l'Église et les ministères. Samedi 11 mai dernier, à Toulon, le Synode national de l'Église protestante unie de France a acté le principe d'un nouveau ministère personnel de l'Union, différent du ministère pastoral, adapté à la dynamique d'une Église de témoins et assumant la pluralité théologique de notre Église. Il s'agit d'un ministère personnel confié à une personne particulière, à la différence des ministères collégiaux. Ce sera un ministère de l'Union nationale des associations cultuelles de l'Église protestante unie de France, comme le ministère pastoral. Une formation en 2 ans. Dans un texte final, le Synode a accompagné ses décisions d'une réflexion destinée à les expliciter. On y apprend ainsi que le cahier des charges de ce ministère particulier pourra se décliner de différentes manières, entre parenthèses, diacre, évangéliste, animateur communautaire, accompagnateur spirituel, formateur, etc. Ce texte donne aussi des orientations pour la mise en place du nouveau ministère. Les candidats devront avoir une compétence spécifique préalable, non théologique, liée à leur ministère. On leur demandera un diplôme en 2 ans, délivré par l'Institut protestant de théologie, préparé en alternance. Cette formation sera donc moins longue que celle des pasteurs qui doivent être titulaires d'un master en théologie. En revanche, comme pour le ministère pastoral, le discernement des candidats au ministère particulier relèvera de la commission des ministères. Ils seront ensuite également rémunérés par l'Union nationale. L'exemple de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. L'Église protestante unie de France pourra s'inspirer de l'exemple récent de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. En effet, en 2020, cette Église sœur a adopté un texte relatif à 6 ministères particuliers reconnus: prédicatrice, prédicateur laïque, animateur, animatrice communautaire, aumônier, évangéliste, assistant ou assistante pastorale et diacre. En juillet 2022, elle a organisé un premier culte reconnaissant 18 personnes dans leur ministère particulier. L'année suivante, elles étaient 11 à être reconnues. Du côté de l'Église unie, les choses devraient s'accélérer. Son synode a demandé au Conseil national de mettre en place un groupe de mise en œuvre du ministère particulier de l'Union. Il y a des arbitrages à faire dans le détail, explique Étienne Berthomier, pasteur de l'Église protestante unie de l'Orient et l'un des rapporteurs nationaux du thème synodal. On change certaines règles de fonctionnement de notre Église, il faut donc changer nos textes. Les projets de textes seront d'abord envoyés aux paroisses, puis examinés fin 2024 par les synodes régionaux, avant d'être voté au Synode national 2025. Gouvernance et formation. Samedi dernier, le Synode national a pris d'autres décisions importantes. Tout en restant attaché au régime presbytérien synodal, il a demandé au Conseil national d'engager une réflexion sur la gouvernance de notre Église. L'idée, en l'allégeant et en l'assouplissant, et de vivre toute notre vie d'Église dans une perspective missionnaire. Le synode a par ailleurs choisi de créer un poste de permanent dédié à la formation au sein de la coordination nationale évangélisation et formation. L'objectif : renouveler la formation dans la perspective du témoignage. C'est dans cette même optique que le synode a demandé la mise en place d'un groupe de travail pour préparer une réforme de la formation des pasteurs. Ecclesia reformata, semper reformanda. L'Église réformée, toujours à réformer. Une fois de plus, l'Église unie prouve sa fidélité à cette devise chère au cœur des protestants. C'était un article de Luc Perrin, journaliste, de l'hebdomadaire Réforme. Je vous propose maintenant quelques informations locales. Ces informations figurent entre autres dans le bulletin Croco Réformé, bulletin de l'Église protestante unie de Nîmes, qu'on peut trouver dans les divers temples, sur le site internet de l'Église, mais aussi qu'on peut recevoir gratuitement par courriel en le demandant au secrétariat de l'Église, ern.bureau@free.fr. Vous pouvez aussi retrouver ces nouvelles locales, comme d'ailleurs celles de toutes les paroisses de l'Église protestante unie de la région, dans le mensuel Le CEP. Parmi ces informations, je ne retiendrai que celles-ci. Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, téléphone 04 66 67 97 40, adresse mail mdp.nim@free.fr. Comme d'habitude, la maison du protestantisme est ouverte le matin du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h, et l'après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h. Le samedi, la maison est ouverte de 10h à midi. Les repas du jeudi pour ce mois de mai auront lieu les 23 et 30 mai à 12h15. Je rappelle qu'il y a une participation aux frais et que la réservation est conseillée au plus tard le lundi qui précède ces repas. C'est à la Maison du Protestantisme que se tiendra l'atelier Théophilo pour ce mois. Il aura lieu le jeudi 23 mai à 18h30 sur le thème « L'éthique de la croyance » de William Clifford. Pour recevoir les informations et les textes étudiés, adressez-vous à travier.didier@neuf.fr. Du 22 au 29 mai, il y aura une exposition dans le hall de la Maison du Protestantisme avec un vernissage le 24 et une conférence le 25 de Patrick Moreau intitulée « Vietnam, l'or du dragon ». Dans le hall de la Maison du Protestantisme, il existe un espace librairie avec un choix de Bible et d'autres ouvrages sur les questions éthiques ou sociétales. Et dans les vitrines, un choix de bijoux, de croix huguenotes, de porte-clés, etc. Encore quelques annonces. Une conférence de l'amitié judéo-chrétienne de Nîmes aura lieu le 23 mai à 19h à la maison diocésaine. Il s'agit d'une conférence de Catherine Poujol avec Pierre Orsay, modérateur, sur les origines du sionisme. Annonçons aussi un concert organisé par l'association Les Orgues du Temple Protestant de Nîmes. Ce concert aura lieu le dimanche 2 juin à 17h au Temple de l'Oratoire, avec des œuvres de Bach, de Mozart, de Haydn, de Gounod, de Fauré et de Debussy. Annonçons aussi l'Assemblée générale de l'Association protestante d'assistance qui aura lieu le lundi 27 mai à 14h au 34 Terre rue Florian à Nîmes. Enfin, le lundi 3 juin à 18h30 au Centre protestant du Mas des Abeilles, 2135 chemin du Bachas à Nîmes, ce sera l'Assemblée générale de l'association Radio Présence Nîmoise, qui est l'association qui porte Radio Alliance Plus. L'Assemblée générale sera précédée par un pot de l'amitié à 18h, le lundi 3 juin. C'est maintenant le moment de terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 8h20, mais aussi le jeudi à 11h15 et le samedi à 10h10. Au revoir, bonne journée.